Vous entrez dans les ateliers de la nuit. Il vous faudra bientôt mettre un casque. Sinon, le son immersif, le son en 3D, c'est-à-dire devant, dessus, derrière, le son binaural vous échappera. Romain Delahaye, alias Molécule, musicien électro, a reconstitué son studio à bord d'un chalutier. Il s'est installé pendant plus d'un mois en pleine mer. Un éclairage au néon, une ambiance de sous-marin soviétique, dit-il. Une odeur de poisson et de gasoil. Mais c'est le son qui l'intéresse. Une musique en plein océan, au plus proche de la tempête. Quand le corps réagit à la houle à quelques centimètres de l'eau. Les micros sont allés dans les entrailles du navire et Molécule tentera d'en extraire les bonnes notes, d'être au plus proche de ses émotions à bord, reconstituer la proximité des éléments et leurs nuances. C'est une série musicale et documentaire, 60 degrés, 43 nord, une production de l'espace Nouveau Son, le lieu à Radio France dédié aux recherches multicanales et binaurales. Du son en haute mer et qui vous entoure. Ce sera tout à l'heure, mais avant ça, avec Thomas Baumgartner, on garde les deux pieds sur le ciment.
Interstices que ça résonne le plus, dans les interstices entre deux, qu'on fait ce qu'on doit faire, qu'on fait ce qu'on nous commande sans qu'on le sache. Bonsoir à vous, bienvenue dans l'atelier du son. Et la vibration dure, Franck Vigroux, bonsoir.
Bonsoir.
On a ouvert l'atelier du son de ce soir avec un extrait de Ciment, un album, un recueil de 10 morceaux. Ce morceau s'appelle « Regarde aussi vers ». Et donc, on regarde aussi vers Simon ce soir aussi, parce que vous êtes musicien, compositeur, vidéaste, souvent sur scène. Et là, vous arrivez avec un disque vinyle, donc le support, ce Simon et ses 10 morceaux. Simon, c'est le Simon entre les morceaux.
Je suis fils de maçon.
Ah.
Mais c'est aussi une pièce de Rainer Müller. Et puis Simon, c'est ce qu'il lit. Et l'essentiel de ma production est électroacoustique, électronique, musicale, je parle. Mm-hmm. Et donc là, j'ai fait un petit écart, puisque j'avais cette vieille guitare. Je crois que je n'ai pas changé les cordes depuis 20 ans. Et je ne les ai pas changées pour enregistrer ça. Au fond de mon studio, j'avais un ampli, un micro, j'ai tout posé là, j'ai enregistré en quelques semaines, comme ça, de temps en temps, j'ai enregistré des improvisations comme celle-là. Et puis, surtout, j'avais envie de... Donc, le lien avec Simon, c'est que j'essayais d'expliquer là, mais j'avais envie de faire un objet comme ça, très ouvert, un peu apaisé, et surtout, c'est un vinyle, j'avais envie de pouvoir écouter un solo de guitare comme ça sur une platine vinyle. Il n'est pas sorti, il sortira pas du tout en grand dame d'iTunes, mais il sera que sur support vinyle. Mm-hmm. Voilà.
Je parlais d'Interstice en commençant l'émission. C'est un album que vous placez, là, quand vous nous en parlez, à part dans votre travail, dans votre production. Ça s'est fait dans les interstices du reste.
Ouais. J'étais en train d'enregistrer d'autres projets pour. Voilà, moult projets que j'ai en cours, soit électroacoustique, soit électronique. Et c'était une occasion pour moi de revenir aussi un peu à la guitare électrique, qui était mon premier instrument et que j'ai un peu abandonné, en tout cas en live et en enregistrement ces dernières années.
Parce que vous étiez lassé de la guitare ?
Non, parce que... plus en plus, je me dis, je suis pas vraiment compositeur, je suis plutôt sculpteur de son. Mmh. Parce que se dire compositeur aujourd'hui, c'est vraiment, je trouve. Enfin, j'essaie de rester humble. Ah. Quand j'écoute Xenakis, je me dis, bon,
voilà, ça, c'est un compositeur.
Ouais. J'ai essayé d'écrire pour des ensembles, j'ai essayé d'être plus ambitieux dans l'écriture. Bon. Aujourd'hui, je me dis que c'est ce qui m'intéresse finalement, c'est plutôt le son. C'est aussi pour ça que je suis allé, après tout ce qui est instrumental, je suis allé vers l'électroacoustique. Voilà. Et mon chemin est toujours par là, quoi.
Pour l'espace, quand vous dites sculpteur, sculpteur de son,
pour l'espace sonore, aussi, ouais. Mais pour la matière, son ouais. Aussi, énormément, ouais.
Mais on l'entend hein, dans Simon. On entend peu, ouais. Le lieu, on entend.
Il y a un peu, en effet, de. On entend l'instrument, mais on entend aussi l'instrument étiré. Mmh. Le son, l'instrument étiré ou amené ailleurs de ce qu'on peut appeler d'habitude un son de guitare. Voilà.
C'est un album du laisser-faire, en tout cas de la détente.
Quand j'y réécoute, là, bon, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, c'est vraiment ouais, quelque chose d'un peu apaisé, je trouve. C'est. J'avais pas une ambition particulière en faisant ça. C'était modeste. Mais j'aime bien. J'avais pas réécouté depuis. Je trouve que ça sonne pas mal.
Bon, on va réécouter avec vous ce soir. Thank you. beau, un autre extrait de Ciment de Franck Vigroux. Et là, on se dit, comme c'est un 33 tours, vinyle, il y a la place de mettre des grandes images. Et d'un côté, on a une cabane dans la forêt. De l'autre côté, on a comme un parking. Mais la première face qu'on voit, c'est une sorte de cabane retirée au fond de la forêt. Enfin, c'est comme ça qu'on l'imagine volontiers, un peu à la...
Bah, je me retire souvent au fond de la forêt.
Ouais.
Mais je vis aussi près des parkings. Donc, il y a un peu des deux, c'est un peu moins,
Il y a le jeu, Franck Vigroux, du comment on fait, comment ça se fabrique. Et à l'instant, vous discutiez avec Romain Delay qui posait des questions sur comment... Alors, on va retrouver dans la deuxième partie de l'émission. Comment vous fabriquez ? Alors là, on entend la guitare, donc vous avez parlé, mais...
Non, alors là, par exemple, c'est simple, je ne l'ai pas indiqué sur le vinyle. J'espère que les auditeurs qui ont les oreilles bien ouvertes arriveront à entendre un Buchla Music Easel, qui est un rare synthétiseur fabriqué en 1973, et dans lequel passe le son, mais aussi de la guitare, et que j'actionne aussi avec mes pieds. Voilà.
Vous aimez bien les vieilles machines analogiques ?
Vieilles, pas forcément, bien que j'en ai pas mal. mais c'est vrai que j'en discute souvent avec des ingénieurs du son. Pour moi, mes choix, c'est des sources, des signaux analogiques. Après, je ne suis pas du tout apparatchik, j'ai plein de dispositifs pour... spécialisés, qui sont numériques ou c'est un échantillonneur forcément numérique. Mais la source, souvent, c'est... Enfin, même essentiellement, c'est analogique. C'est aussi simple que ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a des harmoniques, il y a du grain et ça sonne. Voilà.
À quel moment vous vous êtes dit que cet objet était terminé ? Il y a 10 morceaux. Le 10e s'appelle 10e, si je ne me trompe pas. Et à quel moment vous vous êtes dit, voilà...
C'est aussi l'avantage du vinyle, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre une heure et demie de musique. Voilà. Et puis, je ne sais pas, je crois que ça fait de la faire 35 minutes, ce qui, pour moi, est le maximum de temps d'écoute que je peux accorder à un disque en général. Donc, ce format est très bien. Plus, on peut faire une pause, on peut retourner le disque. Mais je ne suis pas du tout exclusif ou... Je ne défends pas un format ou un autre.
On a l'impression, sur quelques-uns des morceaux, que vous êtes à l'écoute de l'instrument, que c'est lui qui vous envoie, finalement, la note, c'est lui qui vous dirige.
Non, je ne crois pas, quand même. Je sais exactement
ce que je veux obtenir. Vous êtes très à l'écoute, on va dire. Très à l'écoute de la direction proposée par l'instrument.
Oui, bah c'est un peu de ce que je disais tout à l'heure. C'est dans le sens que c'est le son, la matière sonore déjà que je veux faire entendre et que j'essaie de travailler. Bon là, il y a un accordage un peu particulier. C'est ultra simple, mais et non pas aller vers ce vers quoi j'ai passé des années à, c'est-à-dire essayer d'être virtuose, voilà. Au contraire, là, je me suis dit, je vais essayer de même pas poser mes doigts sur la guitare. C'est quasiment le cas. Alors que j'ai passé, je sais pas, peut-être 20 ans à essayer de jouer le plus vite possible comme tous les guitaristes.
Et là, quand vous dites pas poser les doigts sur la guitare, c'est-à-dire ?
Bah, y a un bottleneck, il y a un petit bottleneck au bout de mon doigt, et puis c'est tout. Je fais pas des accords, des phrases. C'est tout.
Vous êtes chercheur en son ?
Ouh là, je vais être aussi rester humble, je sais pas. Hein, mais c'est vrai que j'aime bien le studio, j'aime bien connecter des machines, des jacks, des XLR, voilà, des câbles.
Tenter ?
Ah oui, ça j'aime beaucoup. Ça vraiment. Après avoir en effet passé du temps à l'instrument, j'ai découvert ce travail du studio en fait. Ça me passionne.
que rien n'y pousse. Un autre extrait de ce ciment de Franck Vigroux qu'on conseille à l'écoute, même si donc il ne sera pas disponible sur les plateformes, mais que vous avez donc composé au fur et à mesure des interstices que vous permettez votre activité, qui vous amène par contre le plus souvent là, non pas dans votre home studio, mais sur scène, et aussi qui vous permet de vous frotter à d'autres personnalités musicales et des collaborations nombreuses. Souvent, vous ne travaillez pas en solo, vous travaillez à plusieurs, Franck Vigroux. Et ça, par exemple, pour donner un exemple, il y a ce duo Transistor. Alors là, c'est la partie new-yorkaise de votre activité. Non, j'ai vu que Transistor avait été votre duo avec Ben Miller, a été imaginé à New York.
Où j'étais en 2009 et j'ai rencontré ce musicien. Et bon, voilà, depuis notre collaboration, la ceste. Faire son petit bonhomme de chemin. Mm-hmm. C'est le deuxième disque. Et on joue bientôt, d'ailleurs, en France. Voilà.
Où ça ?
Dites-le. Alors, au festival Manca, à Nice, et à Arcueil, au festival Bruit Blanc.
Et vous avez les dates ?
Ce sera fin novembre.
Ce sera fin novembre. Et donc, ce duo-là se fabrique comment ? C'est-à-dire que vous êtes allé chercher quoi chez lui ou qu'est-ce qu'il trouve chez vous ? Enfin, comment vous définissez votre complémentarité, sachant qu'il chante ?
Difficile. Compliqué. Difficile à dire. Là aussi, encore une fois, vous avez pris mes projets les plus formellement, les plus simples à identifier. Mm-hmm. C'est essentiellement, en l'occurrence, des patterns, des boucles sur lesquelles je construis, voilà. Et avec un chant qui est très, très pareil, très simple, très dépouillé, des paroles très, très ramassées. C'est quelque chose de très brut, je trouve. Mm-hmm. J'espère que vous avez choisi un morceau, d'ailleurs, qui va l'illustrer, mais bon. Peut-être un contre-exemple. Mais
voilà. Justement, non. Justement, parce qu'effectivement, il y a des choses qui sont très variées à l'intérieur de votre travail avec Ben Miller dans Transistor, The Dance of Eons. The Dance of Eons, le titre, l'album.
Thank you. Perfumed inquiry.
Et ça vibre, The Dance of Eons, le duo Transistor, Ben Miller et Frank Vigrou. La vibration, ça, c'est quelque chose qu'on trouve à peu près dans tout ce que vous produisez, la vibration. Même l'infrabasse, souvent, vous aimez aller creuser dans les basses, Frank Vigrou.
Ouais, alors que justement, aussi quelque chose qui, après ma vie de guitariste, m'a beaucoup attiré, c'est la physicalité du son que permettent tous ces outils. Voilà, et donc en plus en live, c'est une espèce d'immersion aussi dans le son. Donc oui, ça, on retrouve beaucoup ça dans mes concerts ou spectacles.
Et parfois sur des morceaux plus physiques, on va dire, vous l'avez dit. C'est vrai que là, on a fait le choix ce soir, surtout sur le dernier morceau, d'être dans quelque chose de plus doux, quoique les infrabasses, on ne les entend pas tout de suite, mais elles font leurs effets. Ah. Il y a des morceaux plus physiques, on peut dire, comme ça. Notamment, je pense à un EP à venir que vous avez produit pour un label de Berlin. C'est ça, Centaure.
Centaure, oui. Ça va sortir au mois de novembre. Et donc là, c'est quelque chose d'un travail avec beaucoup plus de rythmique, de beat. Et puis aussi, ce qui fait aussi une particularité de mon son en live, c'est tout ce côté un peu noise, industriel.
Oui, la forme d'onde est massive. Quand on regarde les morceaux, certains morceaux que vous signez, voilà, il y a des choses sur l'écran, il y a évidemment énormément de choses sur les oreilles. On va se quitter avec un extrait de cet EP donc, à venir au mois de novembre, Centaure. Fabriqué où alors? Ça se fabrique où? Parce qu'entre New York, Berlin et Simon qui se passait dans votre home studio.
Oui, ça s'est aussi fabriqué chez moi en Lozère.
Voilà. Voilà, Centaure de Lozère par Berlin. Merci d'avoir été avec nous ce soir.
Merci. Pour vous.
Sur nos deux oreilles, c'est la chronique de Thomas Baumgartner dans l'atelier du son.
Pas une semaine, ou presque pas une semaine, ne passe sans qu'un festival, petit ou grand, ne célèbre le son, chacun à sa manière, bien sûr. On vous parlait de sonorité à Montpellier, il y a peu de temps. Il y a aussi Sonotone à Périgueux. Dans une semaine, notez-le bien, ce sera le festival Densité à Fresnes en Wavre, dans la Meuse, où on pourra retrouver les recherches de Thomas Tilly, par exemple, le son en pleine nature de Fernand de Roussen et de Marc Namblar, ou encore une mise à l'honneur du compositeur Vinko Globokar. Il y a aussi le festival Medium Radio à Orayan, dans le sud-ouest, ouvert sur les ondes, d'ici et d'ailleurs, Burkina Faso et Pays Basque par exemple pour cette édition. Ça se passe aujourd'hui même et demain, Medium Radio. L'agenda est plein, le son suscite le festival, il suscite la fête. Cher festival, soyez nombreux, nous serons heureux, vous êtes la trace, la preuve vivace d'un phénomène fondamental, celui de la radio hors la radio. Un hors la radio où se réunissent autour du son. Et pour le son, des aficionados et curieux de tous âges, de tous sexes et de tous milieux, avec l'envie d'écouter ensemble et d'en parler. Cette écoute collective et sans antenne résonne autour d'elle-même. C'est le contraire de l'entre-soi. Car, cher festival, vous rayonnez. Votre activisme sonore innerve tout votre environnement. Pour un festival de 3 ou 4 jours, combien d'ateliers radio dans les collèges, combien de présentations de tels compositeurs, de tels musiciens, de tels créateurs dans les centres culturels par exemple, combien de projets de radio web. Et puis, vous apportez la preuve, par le son et par les faits, qu'il y a une multitude de manières de raconter le monde et d'être au monde. Un autre rythme, une autre sensibilité, dans une ferveur partagée. Vous êtes la radio hors la radio, mais vous êtes antenne, vous êtes média. Avec vos spécialités, le documentaire pour les uns, la musique improvisée pour les autres, l'expérience en général et le partage des enthousiasmes en particulier, vous faites du territoire une carte multiple où son et musique se mélangent selon des proportions variées. Vous faites du territoire une carte son. Cher festival, l'aménagement sonore du territoire existe et c'est grâce à vous. Attention pour la suite de l'atelier du son. Vous êtes invité à chausser un casque ou des oreillettes, si ce n'est pas déjà fait, afin de profiter d'une immersion totale. Nous entrons dans un moment de son en trois dimensions.
Un navire de 90 mètres de long, 2500 tonnes, 59 marins à bord, un tiers de Polonais, un tiers de Portugais et un tiers de Français. Mon rêve s'approche. Créer en plein océan une musique au plus proche de la tempête. Réagit au premier mouvement de la houle. Les sons sont partout. s'acclimater, compenser. Un premier motif s'esquisse, le moteur. Une séquence ondulatoire riche en harmoniques, un tempo régulier, hypnotique. Tonalité qui me suivra jusqu'à la fin.
Si vous avez bien écouté au casque ce qu'on vient de diffuser, à savoir le début du premier épisode de la série 60 degrés 43 nord, alors vous avez dû être immergé dans le son, c'est un peu le but. 60 degrés 43 nord, c'est une série musicale et documentaire en multicanal et en binaural, dont la diffusion a commencé depuis quelques semaines sur le site Nouveau Son, nouveauson.radiofrance.fr. On va en parler ce soir avec les auteurs de 60 degrés 43 nord, Molécule, alias Romain Delahaye, bonsoir.
Bonsoir.
À côté de vous, il y a Frédéric Comeau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes les hommes du son de cette série, où il y a aussi des images qui bougent. En face de vous, Anne Brunel, bonsoir Anne.
Bonsoir.
Et avec vous, on va se voir régulièrement en fait à cette table de l'atelier du son pour parler des projets Nouveau Son. Nouveau Son, alors c'est un site, mais c'est un atelier du son.
C'est un atelier du son, mais du son multicanal ouais. Principalement, même exclusivement, mm-hmm. puisque c'est la plateforme numérique, enfin le site web, à partir duquel Radio France diffuse les productions sonores ou sonores et vidéos qui ont été conçues, écrites et mixées en multicanal. Donc c'est conçu et mixé en 5.1 et c'est proposé à la diffusion et à l'écoute en binaural. Pour que tout un chacun puisse profiter de cet effet de l'immersion dans le son en trois dimensions.
Oui, on refait
d'où l'intérêt de garder le casque, évidemment, dans les séquences où on entend les extraits de ses œuvres.
Oui, alors multicanal, on va faire un petit point de glossaire avant de discuter avec les auteurs ici présents. Multicanal, donc ça veut dire une immersion physique
dans le son. La
stéréo,
c'est déjà du multicanal.
Plusieurs canaux, en fait, multicanal.
Voilà, plusieurs canaux, plusieurs points d'écoute, plusieurs sources.
Et binaural. Alors, binaural, c'est une forme de traduction de ces productions pour le casque.
En l'occurrence, oui, là, il s'agit d'un encodage spécifique qui va recréer la sensation du relief à l'écoute au casque, simplement un casque stéréo, suffisamment étanche et de bonne qualité pour qu'on puisse ne pas être perturbé par la sonnerie du téléphone ou les bruits extérieurs. Mais on peut aussi faire de la prise de son binaural. Mmh. Mais là, en l'occurrence, c'est un réencodage binaural qui est le résultat d'un travail de recherche que Radio France mène avec, au sein d'un consortium avec le groupe Orange, mmh. avec France Télévisions, avec également des industriels, des constructeurs. C'était quelque chose qui avance un petit peu tout le temps et les méthodes d'encodage évoluent même entre ce que nous faisions il y a un an et demi et ce que nous faisons aujourd'hui. Les moulinettes d'encodage, mmh. si je puis dire, ont déjà évolué.
Et qui permet donc à tout un chacun, à partir du moment où il a un casque, de profiter de cette immersion.
Et prochainement, sur le site Nouveau Son, on pourra proposer une binauralisation individualisée avec un player qui va être très affiné. On pourra tester son type morphologique mm-hmm. pour la binauralisation, puisqu'on a identifié au sein de ce groupe de recherche auquel Radio France participe à peu près 8 types morphologiques pour intégrer l'écoute binaurale. Donc la binauralisation qui est actuellement proposée sur le site Nouveau Son n'est pas forcément appréciable aussi bien par tout un chacun.
Il faudra
donc
mesurer.
On proposera en effet 8 profils ouais. Qui ensuite devraient pouvoir être mémorisés par l'ordinateur pour ne pas avoir à retester chaque fois le relief. En fait, c'est principalement sur la hauteur que les choses s'ajusteront. Il faut vraiment chercher à pouvoir écouter les choses, tourner autour de soi-même mm-hmm. à partir de petites productions test, et veiller à ce qu'elles restent à l'horizontale plutôt que le relief se balade de haut en bas et soit un peu dans le décor que nous allons aborder maintenant,
oui,
c'est-à-dire dans les vagues.
Dans les vagues, oui, 60 degrés 43 nord, c'est une histoire de quelqu'un qui arrive, qui monte sur un chalutier qui part en haute mer avec son matériel de son. Romain Delahaye, alias Molécule, donc votre nom de musicien, d'artiste. Comment avez-vous eu l'idée alors d'embarquer sur un chalutier, partir en haute mer pendant plus d'un mois, je crois, en plus avec votre matériel ? de son, parce qu'il ne s'agissait pas simplement de capter le son, mais vous avez travaillé sur place cette matière sonore.
Tout à fait. Ben, l'idée, c'était surtout un prétexte, en fait, de, à travers la musique, de pouvoir vivre cette expérience humaine un peu extraordinaire. L'idée de, ouais, d'aller voir, se confronter un peu à la tempête, à la haute mer, qui est un univers qui me fascine depuis toujours. Donc la musique un peu comme prétexte à la base, et puis après l'idée de m'imposer un dogme, de partir comme Franck Vigroux, passionné de vieilles machines analogiques, d'instruments, c'est assez pratique parce que maintenant on peut embarquer, bon ça pèse un peu lourd, mais on peut embarquer pas mal d'instruments et puis un véritable studio, créer un véritable studio sur le bateau. Et donc l'idée c'était d'arriver vraiment avec des pages blanches lors d'une campagne qui est souvent entre 4 et 6 semaines, revenir avec un album, un concept album. Et du coup, je ne pouvais pas passer à côté de, des sons du réel. C'était aussi un peu l'idée.
Il y a une vraie confrontation entre les sons mécaniques et le son de la nature. Alors, en l'occurrence, le son des vagues, ça, on l'entend même dès le début de ce premier épisode. On parlait tout à l'heure de vibrations et d'infrabasses. Là, elle vous est servie sur un plateau. C'est le moteur qui sera comme une basse continue de toute la série.
Tout à fait. Mon envie de base, elle était un peu plus romanesque. C'était d'être en pleine nature, dans la tempête. Mm-hmm. Et c'est vrai que je me suis retrouvé...
Vous l'attendez, la tempête.
Je me suis retrouvé sur un bateau, un gros bateau, avec 60 marins à bord, une usine de traitement, et puis énormément de machines, de bruit. Donc c'est un vrai boucan. Donc ça a été une sorte de tri sélectif, d'essayer de garder certaines matières sonores qui n'étaient pas nuisibles. Il y a eu un petit combat quand même entre l'inspiration et ce boucan infernal.
Là où le silence n'existe pas, c'est ce que vous dites.
Exactement.
On vous entend, je parle d'un travail à la fois musical et documentaire. C'est votre voix intérieure qu'on entend tout au long des épisodes, parce que ça comptait de dire « je » au milieu, sur ce bateau, au milieu de la haute mer.
C'est un projet qui est vraiment très personnel, que j'ai depuis longtemps et qui tend à devenir collaboratif et collectif. Ce projet avec Nouveau Son en est un bon exemple, avec Fred qui est ici présent.
Frédéric Comeau.
Voilà, exactement.
Le capteur de son.
Je souligne aussi le travail magnifique de Vincent Bonnemazou à la vidéo sur ce projet. Et c'est une aventure très, très personnelle comme point de départ. Et puis après, il y a plein de dérivés, de tentacules un peu artistiques, dont cette série pour Nouveau Son. Il y a aussi un projet vidéo art avec un autre artiste. On a une exposition et évidemment l'album que j'ai composé qui va sortir avec un livre le 1er décembre.
Donc sous ce nom-là, 60 degrés 43 nord.
Exactement, je tiens fortement à que ce soit un vrai projet un peu interdisciplinaire et associer tous les collaborateurs qui ont mis un peu les mains dans ce projet pour faire vivre cette aventure très personnelle, mais qui a un côté assez universel en fait, parce j'aborde des thèmes dans le livre qui peuvent se décliner à pas mal de choses.
Et on trouve un morceau du futur album dans chacun des épisodes de la série 62 et 43 Nord sur Nouveau Son. Alors Frédéric Comeau, comment vous êtes-vous approprié ce projet qui est parti comme un projet artistique non très personnel, sachant que vous avez capté le son, vous étiez sur le bateau donc aussi, et puis vous en avez même tiré un documentaire sonore pour vous.
Oui, tout à fait. Donc effectivement, moi, je me suis greffé sur ce projet complètement à côté. Enfin, on n'est pas venu de ça à la base sur le projet donc de 60 degrés 43 nord. Après, moi, une fois que je suis sur place sur le bateau, je ramène de la matière. Oui, c'est ça. Et c'est tellement riche en matière sonore. Alors déjà pour ce qui nous a servi pour ce projet-là, qui est purement du son de bateau, de machine ou de nature, un petit peu d'humain, mais assez peu finalement.
On entend les marins quand même.
On entend un peu les marins, ouais, mais il n'y a pas d'entretien ou quoi sur ce projet. Et du coup, une fois qu'on a ramassé toute cette matière, qui est beaucoup plus brute que ça au départ, parce que évidemment l'oreille ou le cerveau du moins choisit ce qu'il veut entendre. Et quand on a ce qu'on a sur la bande et qu'on réécoute ce qu'on a sur la bande, c'est pas ce qu'on a eu comme sensation au début. Donc il y a tout un travail d'abord à faire de filtre, de choix, de montage pour retrouver les sensations qu'on a eues au départ et après mettre ça au service de l'histoire qu'on raconte sur les quatre épisodes, quoi.
Comment vous ont accueilli les marins, l'équipe, l'équipage qui est décrit par vous, Romain, au début du premier épisode ?
C'était super. C'est des hommes qui sont rudes au premier abord, mais qui, au final, sont très ouverts à partir du moment où on respecte certaines règles qui sont très basiques. Hein. C'est assez simple, finalement. Il faut rester simple avec eux, mais c'est des gens qui vivent des vies quand même difficiles. Et puis, dans un univers qui est quand même très confiné, avec des règles assez strictes et établies, et qui peuvent vraiment paraître en décalage par rapport à ce qu'on vit, nous, au quotidien, et pas seulement qu'en étant en ville ou quoi. C'est... Il y a une discipline un petit peu militaire encore. Donc voilà, une fois qu'on s'est néanmoins fondu dans le milieu, on est accueilli vraiment comme des princes. Hein, vraiment. Enfin, Romain, je pense que tu es d'accord.
Ouais,
On a pu vraiment approfondir des relations avec eux. On a gardé contact avec eux depuis, ou avec certains d'entre eux en tout cas, depuis.
Mais est-ce qu'ils écoutent ? Enfin, est-ce que la question du son, vous avez pu en discuter avec eux ? Ça permet de décaler, évidemment, la situation, mais...
Le projet, il était, pas facile à comprendre pour eux. Mettre en musique des éléments, le bruit du moteur ou des treuils, des bruits qui les dérangent ou qui fuient. Ils comprennent pas forcément cette démarche. Après, il y a eu un grand respect, c'est vrai, dès le début... depuis qu'on est arrivé sur le bateau et ils ont suivi un peu, il y a certains marins qui étaient curieux, qui venaient écouter, évidemment il y a des affinités plus fortes avec certains d'entre eux, il y avait des musiciens à bord, le capitaine était lui aussi un peu musicien, donc après on a buffé aussi, fait un morceau avec le capitaine, il y a eu, c'est vrai, une aventure humaine aussi en plus.
Anne Brunel.
Si je peux ajouter une chose sur le plan de l'analyse des sons qui se déroulent à bord, il y avait une chose très riche que vous avez indiquée en parlant de la multiplicité des origines ethniques ou de nationalités. C'est ce mélange des langues qui est frappant et vraiment intéressant dans la bande-son. Hein. C'est qu'il y a cette mosaïque de sons, de rossité de la voix, des chants parfois, on entend chanter portugais, y compris les accents. Même le capitaine, Frédéric, tu parlais de côté militaire, mais ça fait partie de la rythmique de cette bande-son. Arrière-demi, ou arrière-mini, ou dans le dernier épisode, route terre, qui est lancé comme une espèce de cri d'espoir après une tempête infernale qu'on entend dans le troisième épisode. Dans la voix aussi, il y a la rythmique, et ça joue beaucoup dans la construction du son, il me semble.
Effectivement, on entend les voix dans ce dernier épisode, qui va donc être mis en ligne mercredi sur Nouveau Son.
Voilà, mercredi 22, quatrième et dernier épisode, mais la totalité reste écoutable très longtemps.
Écoutable, donc on l'a dit,
bien sûr, écoutable,
soit en multicanal, soit si on est équipé pour, soit en binaural,
voilà,
avec un casque.
En 5.1 si on a un home cinéma, et sinon au casque en binaural, et bientôt avec binauralisation personnalisée.
Voilà, donc.
Et puis on se retrouvera de mois en mois pour mettre un coup de projecteur comme ça sur les productions remarquables.
Le rendez-vous.
Encore qu'elles le sont toutes, mais disons qu'on on en mettra une en valeur comme ça chaque mois dans ce que nous faisons sur un nouveau son.
Le rendez-vous de nouveau son dans l'atelier du son. Et donc, une avant-première pour terminer, on se quitte avec les premières minutes du quatrième épisode de 60 degrés 43 nord. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir.
Bon, Joachim. C'est fini. C'est la route de Saint-Malo. On fait route terre. Donc voilà, c'est vacances maintenant. Philippe. ils sont tellement contents qu'ils partent dans les poussées. Il y a un chien qui n'est pas un os.
Regardez ma petite fille.
Oh le scandale!
Je vais gagner au loto alors.
Je suis déjà nostalgique.
Vous écoutez l'Atelier du son, Thomas Baumgartner sur France Culture.
Ils en ont parfois plusieurs, des histoires de son. Alors pourquoi se priver, Daniel, des grands penseurs du son, notamment du son au cinéma et au théâtre, mais pas seulement, nous en raconte à nouveau une, comme il l'avait fait au début de la saison, une histoire où il est question de sa collaboration avec le trompettiste free et libre, Jack Berrocal. Une histoire vraie de son, rubrique nouvelle dans l'émission qui commence forcément par « Il était une fois ».
Il était une fois Berrocal qui me demande de... d'aller enregistrer à la campagne. Et Jacques, en fait, lorsqu'on travaillait ensemble, on avait pris l'habitude d'aller dans des endroits très différents pour l'enregistrer. Il faut dire qu'à l'époque, on n'avait pas d'argent, les studios étaient hors de prix. Pour nous, c'était hors de question d'aller dans les studios. Et du coup, on se débrouillait tout le temps pour trouver des endroits, alors chez des copains, dans un gymnase, dans une forêt, etc. Et là, il était allé dans son fief, c'était à Sens, il habitait à Sens, et il était allé chez un paysan, et il me dit, je suis allé chez un paysan, et j'ai repéré que les cochons, quand on leur donne à manger, ils hurlent. Et il me dit, j'aimerais bien faire un solo de cornet sur les hurlements de cochons. Alors j'ai dit, bon, d'accord. Alors il me dit, on peut y aller n'importe quand tu veux. Alors je lui dis, il faut se mettre d'accord avec le paysan. Il me dit, non, il est toujours là, il n'y a pas de problème. Donc il joint ses amis. À l'époque, il y avait Roger Ferlet qui jouait du trombone à piston, qui est devenu astrophysicien. Et puis il y avait Michel Potage, un peintre, qui jouait de la guitare à Archer. Ça devait être en 78 ou 79. Donc on part là-bas. À cette époque, je crois que je n'avais pas encore d'enregistreur portable. J'ai emmené un ferrographe, qui était un gros magnétophone, un peu du genre des Revox. Et donc, on est parti dans cette campagne, chez ce paysan. On est rentré dans cette porcherie immense. Et on a vu des centaines de cochons qui étaient là, qui attendaient pour manger. Donc, moi, j'avais mis mon magnétophone sur une brouette que j'avais placée sous l'unique ampoule qui était au milieu de la porcherie. Et où il y avait une douille qui permettait de se brancher. Donc c'était vraiment l'enregistrement de campagne. Et puis, Jacques sort son instrument, Roger le sien, Michel aussi. Et puis, on commence à s'échauffer un peu, mais on attend surtout que le paysan vienne. Le paysan arrive et il commence à préparer la nourriture des cochons. Donc on lui avait dit, on vous fera signe à quel moment. Donc je démarre, je tourne, et puis on lui dit, allez-y. Donc il prend son grain, ou je ne sais plus ce qu'il avait, ce qu'il ordonnait. Et puis, il commence à mettre ça dans les auges. Et les cochons commencent à donner des coups de groin, à hurler, à manger. Mais c'était vraiment une énergie sonore absolument gigantesque. C'était vraiment des je ne sais pas le nombre, mais un nombre prodigieux d'animaux. Et c'est un assez grand lieu en bois. Tout était en bois. Voilà. Et donc, là-dessus, Jacques prend son cornet et il me dit, je vais faire un solo dessus. Donc, il m'avait dit, je voudrais avoir l'ensemble, quoi. Et donc, il commence à jouer. Et là, tous les cochons se taisent, tous, et écoutent le cornet. Et jamais j'aurais pensé d'avoir ce silence absolu de la part des animaux. Et donc... on s'est dit, mais on va devoir remixer les cris des cochons sur le cornet. Et à l'époque, je n'avais pas eu la présence d'esprit de me dire, mais c'est ça la chose forte, c'est cet arrêt de... Voilà. Et donc, c'est, je crois, sur le disque catalogue que ce morceau a été mis. Et je ne me souviens même plus comment il a été mis, mais je crois qu'il est mixé. Ça doit être assez court, d'ailleurs. Voilà, mélangeant... le solo et les cris des cochons. Ce qui donne envie de retourner dans des lieux comme ça et de se remettre dans des situations comme ça. Je crois qu'il y a là un théâtre qu'on n'a jamais, qui est un théâtre assez exceptionnel. Et je me dis toujours, les musiciens qui veulent enregistrer dans la nature, dans les ambiances naturelles, en fait, il n'y a pas de théâtralité. Et je crois que le seul intérêt, c'est justement d'emmener la musique à des endroits où elle est dépassée par la réalité du monde, et non pas où elle viendrait dominer le monde. Voilà.
Une musique qui ne vient pas dépasser la réalité du monde, mais qui se laisse emporter par elle. En fait, c'est sur l'album Parallèle et non l'album Catalogue, qui date d'à peu près la même époque, qu'on entend Postcard, ce morceau Cochon de Jacques Bérocal, enregistré par Daniel Dehé, qui nous racontait son histoire vraie de son. L'émission est terminée pour ce soir. Avant de se quitter, un mot sur un rendez-vous Fantasmas Cortázar, la performance de Diego Losa autour de la figure de l'écrivain argentin Julio Cortázar et de son œuvre maîtresse Marelle va avoir lieu vendredi prochain. On en avait parlé la saison dernière, 2014. C'est le centenaire Cortázar. Vous allez pouvoir assister à la totalité de la performance audio et visuelle de Diego Losa, Fabrice Croiset et Sabrina Montiel Soto à la Maison de l'Argentine vendredi soir prochain, vendredi 24 à 20h. La Maison de l'Argentine, c'est de la Cité internationale de Paris. C'est universitaire dans le 14e arrondissement. Si vous êtes à Paris, on vous conseille le déplacement. On met toutes les précisions d'agenda sur le site de l'Atelier du Son sur franceculture.fr, où vous trouverez aussi la réécoute, les podcasts, les commentaires. L'émission est préparée et coordonnée par Inès De Bruyne, réalisée par Véronique Lamandour. Et au son ce soir, il y avait Bernard Laniel. Tout de suite, vous retrouvez Aurélie Charron. Bonne suite de nuit à vous sur France Culture et à vendredi prochain.
Merci Thomas, bonne suite de nuit à vous. La semaine prochaine, les ateliers de la nuit se consacrent à l'art, à l'occasion de la semaine Picasso et après sur France Culture. Mardi soir, dans l'atelier fiction, Nicolas de Staël, portrait de l'artiste sur fond rouge, de l'auteur Stéphane Lambert. Mercredi soir, Le Puits et la Dune, une composition musicale électroacoustique de Lionel Marchetti et Olivier Caparros. Jeudi soir, Chelsea Hotel, l'hôtel du rock dans les décombres, par Élodie Maillot, qui entre souvenirs, histoire, fantasmes, entre œuvres et business, entre rêve et réalité, redessine toute une époque à travers ce lieu. Enfin, vendredi soir, dans son atelier du son, Thomas Baumgartner évoquera Jean Dubuffet et ses expériences musicales. Je vous dis à lundi pour l'atelier intérieur. Nous serons en direct de 23h jusqu'à minuit et nous parlerons du visage et de la façon de le peindre avec deux peintres contemporains, Thomas Lévillane et Bruno Perramont. N'oubliez pas que les ateliers de la nuit, fiction, documentaire, son, sont à réécouter et à podcaster. Tout est sur le site internet de France Culture.